Europe 1.
Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, je reçois l'historienne Nadine Cretin, spécialiste des fêtes et des traditions et auteure d'Histoire du Père Noël aux éditions Le Pérégrinateur. Bonjour Nadine Cretin.
Bonjour.
Chaque année, un peu avant le mois de décembre, ce gros bonhomme en manteau rouge et à la barbe blanche envahit l'espace médiatique et urbain, et même nos maisons. Les enfants ne parlent que de lui, de sa hotte, de ses rennes et de ses cadeaux. C'est bien sûr le Père Noël. On raconte que Saint-Nicolas serait à l'origine du personnage du Père Noël. Est-ce vrai ?
Absolument, mais il n'y a pas que Saint-Nicolas. Avant Saint-Nicolas, déjà lui, il a recouvert d'autres créatures qui étaient connues, qui le sont encore d'ailleurs au moment des carnavals. Donc, c'était des créatures qui étaient pourvoyeuses d'abondance, qui jetaient des noix, des friandises. On connaît par exemple les Gilles de Binche qui jettent, eux, des oranges.
Ce sont des personnages du carnaval, les Gilles de Binche ?
Oui, ah oui, tout à fait, des personnages du carnaval qui sont habillés avec des costumes chatoyants. Donc, c'était dans différentes régions, que ce soit en Autriche, en Allemagne, dans le nord de l'Italie, en Suisse, en France, en fait, des régions froides, si je puis dire, de montagne. Et donc, c'était ces personnages qui étaient gentils, souriants, beaux, avec des couvre-chefs magnifiques et qui ont donné Saint-Nicolas, qui étaient accompagnées de créatures qui, elles, étaient horribles et affreuses et qui sont devenues, elles, de leur côté, le père Fouettard.
Alors, qui est vraiment Saint-Nicolas ? Parce que finalement, on parle de lui, mais on a oublié un petit peu qui il était.
Absolument. Saint-Nicolas était un évêque, il a réellement existé au 3e, 4e siècle, mais il était évêque en Asie mineure, à Amir, dans le sud de ce qui est devenu la Turquie. Et donc, lui, Saint-Nicolas, il s'est illustré en particulier par des miracles fantastiques. Et en particulier, celui qui était très important, c'est d'avoir sauvé des marins de la tempête. Et pour cette raison, il est devenu patron des marins. Ce qui explique aussi que son culte va vite se répandre. Et puis, dans sa légende, on lui a accordé plusieurs miracles, et en particulier celui d'avoir donné de l'argent à trois jeunes filles pauvres d'une façon anonyme la nuit, qu'il a posé sur la fenêtre.
Parce que leur père voulait les prostituer, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, exactement.
Et donc, pour les sauver, il dépose de l'argent pour éviter qu'elles ne vendent leur corps.
Les unes après les autres, voilà, c'est ça, il a donné de l'argent pour les sauver, entre guillemets. Et puis, si vous voulez, il a très vite recouvert une créature qui apportait du bonheur, de la joie. Il était patron des enfants. Il y a eu cette légende également, tardive aussi, mais qui est apparue, où il a sauvé ses petits-enfants qui étaient coupés en morceaux chez le boucher.
Enfin, vous nous racontiez l'histoire.
Alors oui, c'était trois petits-enfants qui s'en allaient glaner au champ. Et puis, le soir est arrivé, donc ils ont frappé à la première maison venue. Et c'était, alors suivant les versions, c'est un aubergiste ou un boucher. Boucher, voudrais-tu nous loger ? Et donc, entrez, petits-enfants, il y a de la place assurément. Et puis le boucher les a coupés en morceaux et mis au saloir comme pourceau. Donc, 7 ans plus tard, Saint-Nicolas est passé et les a sauvés du saloir.
Donc, il les ressuscite.
Il les ressuscite, tout à fait. Et le dernier, d'ailleurs, il a 3 petits-enfants. Le plus jeune dit « je me croyais au paradis ». Voilà.
Donc, c'est un saint qui est vraiment associé à des miracles du monde chrétien, si je comprends bien.
Absolument. Oui, oui, il est associé à des miracles qui sont toujours extrêmement positifs, extrêmement... Il apporte du bonheur, quoi, si vous voulez, pas seulement des pains d'épices.
Alors, vous l'avez dit, Saint-Nicolas est le saint patron des marins, mais il veille aussi sur de nombreuses corporations, sur des métiers, des groupes sociaux, comme les enfants. C'est aussi le saint tutélaire des premiers colons d'Amérique. Pour quelle raison ?
Oui, tout à fait. Ben justement, comme je disais, il était patron des marins. Et donc, les premiers colons américains, à partir du XVIIe siècle, ont été très reconnaissants de leur traversée où ils étaient sains et saufs. Et donc, c'est une façon de remercier Saint-Nicolas. Et ce qui fait qu'il est très présent en Amérique du Nord. Et puis, progressivement, on lui a accordé justement un rôle magnifique en apportant des cadeaux. Et alors, il avait acquis la capacité entre-temps. En fait, il était surtout connu, Saint-Nicolas, lui, seulement à partir du XIe siècle, parce que ses restes sont venus à Bari. Et de là, il y a un chevalier lorrain qui avait emporté une phalange en Lorraine. Et en Lorraine, il aurait recouvert le culte du dieu Odin. Entre autres, enfin, il a pris donc des aspects mythologiques germaniques et entre autres cette capacité de marcher dans les airs.
Ah et, oui, ce qui est original quand même pour un saint d'origine chrétienne.
Absolument. Et donc, en fait, les cadeaux de Noël sont vraiment des cadeaux tombés du ciel, si vous voulez. Il les jetait par la cheminée. En même temps, le Père Noël avait recouvert aussi un personnage du chasseur sauvage qu'on entendait la nuit, les nuits de tempête au moment du solstice d'hiver. Et c'était ce personnage qui était dans un attelage avec un cortège de morts violentes et puis des chiens qui aboyaient, des chaînes, enfin... des bruits qui faisaient peur. Et ce chasseur sauvage, si vous voulez, il a donné d'une certaine façon au Père Noël sa barbe, lui, et son attelage aussi. Et donc, comme on le disait, venant du froid, finalement, il est toujours, toujours bien couvert, de toute façon.
Alors, on va y revenir, justement, à cette nuit. Mais là, on va repartir en Amérique pour le moment, puisque c'est là que nous l'avions laissé il y a quelques instants. Et donc, est-ce que c'est là que ce Saint-Nicolas va évoluer vers le nom que l'on donne au Père Noël outre-Atlantique, c'est-à-dire Santa Claus?
Ah, tout à fait. Alors voilà, Saint-Nicolas donc va progressivement perdre ses attributs d'évêque, sa mitre, sa crosse, sa cape, qui était souvent d'ailleurs parfois de couleur rouge, hein, je signale au passage.
Qui est la couleur des évêques de toute façon.
Oui, enfin, les évêques c'est plutôt violet, c'est les cardinaux, la pourpre cardinalis en fait. Et donc, Saint-Nicolas s'est appelé d'abord Saint-Nic en particulier dans un poème de Clement Clarke Moore en 1822, où il avait pris la toute petite taille des petits lutins d'Europe du Nord, et ce qui lui permettait de pouvoir passer par les cheminées. Et puis, il était devenu avec un ventre bien bedonnant, des joues rebondies, un petit air facétieux, enfin, dans ce poème de Clement Clarke Moore, où il y avait les rennes et l'attelage qui était resté sur le toit et les rennes qui piaffaient, etc. Et progressivement, là, après, il va être dessiné, en particulier par Thomas Nast dans les années 1860. Et c'est Thomas Nast, lui, qui le fait vraiment venir du pôle Nord. Mais à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'il vient du froid, l'hiver et enfin l'espace et le temps sont confondus, si vous voulez. Mm-hmm. Et en plus, c'est important 1860, enfin ces années-là, parce que le pôle Nord n'avait pas encore été découvert. Il a été découvert seulement en 1909. Donc c'était une région qui était un peu mystérieuse, un peu mythique, si vous voulez. Donc voilà, c'était une créature. On savait pas trop d'où il venait, mais en tout cas, qui était toujours très respectable avec sa grande barbe.
Donc on voit que ce Père Noël tel qu'on commence à l'entrevoir, qui ressemble au nôtre, est plutôt américain, parce qu'en Europe, la tradition de Saint-Nicolas va perdurer pendant longtemps, au Moyen-Âge, et notamment dans les lieux où l'abondance est de mise, puisqu'on a dit que Saint-Nicolas, c'était l'homme qui apporte l'abondance. Et on parle des foires de Saint-Nicolas en Europe. De quoi s'agit-il?
Alors, ces foires de Saint-Nicolas, on connaît par exemple le marché de Noël de Strasbourg, qui est très connu et qui a changé de place en 1570 pour venir au moment de Noël. Mais auparavant, c'était une foire de Saint-Nicolas, c'est-à-dire c'était un marché où on vendait des pains d'épices, beaucoup de choses, si vous voulez, qui étaient spéciales à Noël, des biscuits comme on connaît encore maintenant des gâteaux comme les Stollen, les Christstollen allemands, etc. Enfin, et donc, ces foires avaient lieu forcément au moment de la Saint-Nicolas, mais celle de Strasbourg en particulier, qui est la plus connue, s'est déplacée, elle, pour être au moment de Noël quelques jours. Elle, ça ne durait pas trop longtemps au début, et puis maintenant, ça dure tout l'avant, et même ça va souvent jusqu'au 31 décembre.
Donc, vous l'avez dit, Nadine Cretin, le Père Noël est un personnage qui vient du froid, qui est bien habillé, chaudement. Mais alors, d'où vient cette idée qu'il viendrait de Laponie ?
Ah, alors, c'est une idée assez récente, en fait, qui date des années 1950. On l'a fait venir de Rovaniemi, mais en fait, bon, comme il venait du froid et qu'il venait du pôle Nord, il y a plusieurs villes, je ne sais pas s'il faut parler de villes ou simplement de lieux, de villages ou même de hameaux, qui se l'attribuent, qui sont sur le cercle polaire, que ce soit les Danois ou l'Alaska, enfin, il y a différentes régions où on le fait appartenir.
Vous dites qu'on se l'attribue, ça veut dire qu'il y a plusieurs villages qui se battent pour être le lieu où habite le Père Noël ?
Oui, mais le plus connu, c'est Rovaniemi. C'est celui...
Qui se trouve dans quel pays ?
Alors, c'est la Laponie, précisément, pas loin du cercle polaire. Et donc là, c'était Eleanor Roosevelt, après la guerre, qui a voulu, de cette façon, si vous voulez, encourager cette ville, enfin ce lieu, parce qu'il avait été très affecté au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'était une façon de le faire revivre, si vous voulez, d'une toute autre façon. Et c'est vraiment, effectivement, un endroit qui est très connu dans le monde entier.
Bon, Nadine Cretin, je vais devoir vous poser la question à laquelle tout le monde pense. Est-ce que notre Père Noël, c'est le Père Noël de Coca-Cola ?
Alors, ce n'est pas tout à fait le Père Noël de Coca-Cola, puisqu'on voit que son histoire est beaucoup plus ancienne, d'après ce que j'ai dit déjà. Mais en fait, Coca-Cola a fait, dans les années 1930, une campagne qui a été reprise dans les années 1950, et il a fixé dans l'imaginaire le personnage. Il s'est beaucoup inspiré, si vous voulez, de Thomas Nast, en fait, mais il avait retrouvé une taille normale, ce qu'il avait déjà dans d'autres publicités que l'on trouve, mais qui n'étaient pas aussi connues que celle de Coca-Cola. Alors, ils ont fixé la couleur rouge du vêtement, et puis, avec la grande barbe, le bonnet mou, enfin, vraiment, c'est le Père Noël tel qu'on le connaît, si vous voulez. Et puis, il a eu aussi un grand mérite, c'est de, comme Coca-Cola est une boisson fraîche, et c'est une boisson qu'il a voulu faire connaître dans l'hémisphère sud, donc il a répandu de cette façon l'image du Père Noël, ce qui fait que maintenant, le monde entier connaît le Père Noël.
Alors, il n'y a pas que le Père Noël, parce que ce n'est pas un personnage solitaire. Le Père Noël est accompagné d'autres personnages. Et aujourd'hui, celui qui a le plus la cote auprès des enfants, c'est Rudolf, le renne au nez rouge. Mais dans la tradition plus ancienne, Saint-Nicolas ou ses avatars ne sont pas toujours accompagnés de rennes. Parfois, ce sont des chevaux ou des ânes, c'est
oui.
ça ?
Ah, tout à fait, oui. Par exemple, en Hollande, enfin, aux Pays-Bas, c'est un cheval blanc. Et puis qui accompagne l'évêque. Et c'est surtout, oui, souvent une monture qui peut être effectivement un âne, enfin, qui a l'avantage d'être toujours, d'apporter des jouets, d'emporter lourd sur les épaules.
Alors, pour résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit dans cette émission, pour en faire la synthèse, est-ce que le Père Noël a beaucoup changé à travers le temps ? Est-ce qu'on passe d'un personnage chrétien pourvoyeur d'abondance, de valeur, de générosité, de probitude à un personnage de marketing au service du consumérisme.
Alors, c'est vrai que le Père Noël a beaucoup changé et qu'on peut lui reprocher cette image, justement, d'avoir trop encouragé ce consumérisme. Mais en réalité, Noël est la fête de la générosité. Mais même quand on sert un réveillon, par exemple, on s'arrange pour qu'il soit abondant, pour que les mets soient luxueux, etc. C'est une certaine façon de faire un cadeau, si vous voulez. Et puis, les cadeaux, mon Noël était très important pour tous ces petits-enfants, par exemple, qui allaient chanter aux portes des maisons et qui annonçaient leurs vœux. Et les enfants sont dépositaires de l'avenir. Donc, si on les reçoit bien, eh bien, ça veut dire qu'on se met les vœux de son côté. Alors, on les recevait bien dans leur donnant une friandise, un bonbon, une petite pièce, etc., pour les remercier. Mais les vœux de Noël chantés par les enfants étaient vraiment très, très présents. Et donc, si vous voulez, le Père Noël, il n'a pas que ce côté consumériste que l'on peut croire et qui énerve un petit peu, ça se comprend. Et puis, il y a toujours une joie de faire les cadeaux au moment de Noël. Donc, si vous voulez, c'est vraiment... il recouvre un bonheur particulier.
C'est très bien de terminer là-dessus, de se dire voilà, que le Père Noël, finalement, c'est un personnage qui emmène de la joie, de la générosité, qu'il faut le voir comme ça, finalement,
oui.
Surtout au service de nos enfants qui sont notre avenir. Merci Nadine Cretin.
Merci.
Cet échange était vraiment passionnant autour du Père Noël. Je rappelle que votre ouvrage « Histoire du Père Noël » est paru aux éditions Le Pérégrinateur. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Je vous donne rendez-vous tous les jours sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez aimé, faites-nous un cadeau, 5 étoiles, ça fera notre bonheur. Merci.